7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons des enfants et des adultes hypersensibles. C'est pas une maladie, mais un trait de personnalité qui parfois rend la vie plus compliquée quand, par exemple, on se laisse envahir par ses émotions, ses états d'âme que l'on ressent plus fort que les autres, les critiques, les conflits. Alors, comment utiliser cette faiblesse, entre guillemets, comme un talent? Comment aider un enfant hypersensible qui a du mal à s'affirmer à l'école? Si vous êtes vous-même dans ce ressenti, appelez-nous pour dialoguer avec nos invités au 33 1 84 22 71 71. C'est également le numéro pour WhatsApp sur lequel vous pouvez poster aussi des messages écrits. Nos invités, Nathalie Claubert, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes psychologue clinicienne, hypnothérapeute. Vous avez publié « Dompter votre hypersensibilité » aux édition Le Duc, et vous décrivez très très bien qui sont ces personnes hypersensibles. Nous sommes également en ligne avec Nathalie Brochard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également psychologue clinicienne, psychothérapeute, vous travaillez sur les enfants hypersensibles avec un documentaire en préparation, et vous travaillez d'ailleurs beaucoup à sensibiliser l'éducation nationale en France, qui a un système scolaire assez rigide et qui ne prend pas en compte ces personnalités un peu à fleur de peau comme ça et pas dépourvues de talent. On va en discuter aussi avec vous, Nathalie Brochard. Nous serons en ligne également avec Lilia Rechette qui fait du recrutement pour des profils atypiques, dont des personnes hypersensibles. Pas facile aussi de s'adapter dans le monde du travail lorsqu'on a cette sensibilité à fleur de peau. Et puis en fin d'émission, comme chaque vendredi, la chronique de Marie-Rose Moreau. Parents, enfants d'ici et d'ailleurs. En ce moment, c'est une série sur le sommeil des enfants. Vous pouvez retrouver toutes les chroniques de Marie-Rose Moreau en podcast, et aujourd'hui, elle répondra à la question qui fait tant débat. Les enfants doivent-ils dormir dans leur propre chambre ou peuvent-ils dormir dans la chambre des parents, et jusqu'à quel âge? Voilà, ça sera la chronique de Marie-Rose Moreau à la fin de l'émission. Je vous rappelle notre numéro de téléphone pour dialoguer avec nos invités sur les enfants, les adultes hypersensibles. 33 1 84 22 71 71. Je vous lis quelques messages postés sur nos réseaux sociaux. Séverine, qui poste de Martinique, elle dit « Je me définis comme sensible. Je n'aime ni l'injustice, ni les conflits. Et j'ai tendance à vouloir toujours quitter les gens en bons termes. Lors d'un conflit, je mesure mes paroles pour ne pas vexer. Je me retiens, malgré moi, si la personne m'a mal parlé de manière agressive. Tous les domaines de ma vie sont touchés, sentimental, professionnel, amical, familial. » Et elle pose la question, Séverine, comment étoffer mon caractère? C'est intéressant le mot qu'elle utilise. Comment étoffer mon caractère et ne pas culpabiliser dès qu'il faut prendre une décision? Qu'est-ce qu'on pourrait répondre, Nathalie Claubert, à Séverine?
Alors, ce que Séverine décrit, c'est intéressant parce que c'est une des manifestations de l'hypersensibilité, une des façons de la gérer quand on est très empathique, c'est-à-dire qu'on ressent ce que l'autre sent, qu'on anticipe ses réactions. On peut craindre effectivement de le blesser, donc on a tendance à arrondir les angles, à éviter les conflits, à ne pas dire ce qui fâche, à vouloir rester en bon terme pour préserver la personne, pour préserver la relation. Mais le problème, c'est que du coup, on se met en retrait et on a tendance à ne plus s'écouter soi, à se mettre au second plan. Et il y a tout un travail qui consiste à faire émerger non seulement ses propres émotions aussi, c'est-à-dire écouter ce qu'on ressent et se dire qu'en fait s'affirmer, c'est pas nécessairement créer du conflit. On peut s'affirmer, on peut dire les choses en respectant l'autre et en créant pas nécessairement du conflit. Et puis il y a des fois où, quand vraiment la situation est déséquilibrée, où on peut pas éviter le conflit, et ça vaut parfois le coup.
C'est intéressant parce que Nathalie Brochard, cette personne Séverine parle d'étoffer son caractère comme si les hypersensibles auraient souvent le sentiment justement qu'ils manquent de caractère d'une certaine manière.
Nathalie Alors, Brochard. Alors qu'est-ce qu'on entend par caractère? Ce qui est clair, c'est que cette hyper-empathie provoque un raz-de-marée émotionnel et toute la difficulté est de gérer ce raz-de-marée émotionnel à l'intérieur de soi, tout en gérant aussi ses propres valeurs. J'ai entendu culpabilité, il y a un besoin d'aider l'autre qui est très très fort, et à un moment donné, il s'agit de de gérer sa priorité. À quel moment eh bien, je me protège et à quel moment je vais aider l'autre. Et surtout, poser la question incontournable. D'abord, c'est demander à l'autre si l'autre a besoin d'aide. Et si la réponse est non, d'accueillir ce non.
Oui, parce que les hypersensibles sont très altruistes. Hein. On va y revenir. Un autre voisin, une voisine, pardon, beaucoup de femmes hein, qui postent aujourd'hui. Djeneba, qui est à Kay, au Mali. Djeneba, voici ce qu'elle dit. Mon problème, c'est le changement. Ça peut paraître ridicule, mais j'ai tellement peur du changement que ça me paralyse. Et je renonce à beaucoup d'opportunités à cause de ça. À chaque fois, vous voyez, c'est... Il faut étoffer mon caractère, j'ai peur du ridicule. Il y a toujours cette position comme ça. Est-ce que je suis bien dans la société finalement, non, Nathalie Clobert?
Alors, l'hypersensibilité, elle peut s'accompagner beaucoup d'anxiété, de peur. Parce que, bah oui, l'expression de l'émotion, elle n'est pas toujours bien accueillie dans la société actuelle. Hein. On a tendance à nous dire qu'il faut toujours tout maîtriser, pas donner à voir de soi, être tout le temps dans le contrôle. Et du coup, on porte cette espèce de nécessité d'être un peu dans le contrôle. Donc, il peut y avoir une anxiété de bah, comment ça va être accueilli si je m'exprime. Alors là, ce que effectivement ce témoignage peut nous dire, c'est que le changement, de toute façon, ça génère beaucoup de peur. C'est-à-dire, le changement, c'est beaucoup d'émotions. C'est aussi des nouvelles capacités d'adaptation hein, qu'on doit développer, et c'est toujours un risque, le changement. Ça peut être pour le meilleur, mais ça peut être aussi un véritable risque, et prendre aussi le risque de souffrir. Et ce dont les hypersensibles ont très peur, c'est cette souffrance. C'est cette souffrance qui peut être liée à des émotions très fortes. Alors, c'est pas qu'une souffrance, hypersensibilité, c'est aussi une plus grande perception des émotions, de ce qu'on ressent, donc c'est aussi une véritable joie. Hein. Il y a dans les extrêmes, si vous voulez, il y a autant d'inconfort que de
compréhension du monde aussi.
Tout à fait, que de compréhension du monde, que d'accès à une certaine façon de sentir et de voir le monde. Mais oui, toutes les émotions fortes, tout ce qui va susciter du changement, de l'anxiété, de la peur, ben, tout ça va être parfois compliqué pour les hypersensibles.
Parce qu'on vit dans cet état de vigilance extrême.
Exactement, de vigilance.
Parce qu'on ressent beaucoup plus fort que les autres, et donc effectivement le changement, on se dit, oulala, qu'est-ce que ça va faire chez moi?
Tout à fait. Alors après, vous avez des hypersensibles qui, ils ne sont pas tous inhibés, ils ne sont pas tous toujours dans l'anxiété, dans la peur. Vous en avez qui, au contraire, sont dans une difficulté à contenir la colère, à contenir tout ce qu'ils peuvent ressentir, et qui sont plutôt des explosifs. Vous en avez aussi. Ils ne vivent pas toujours tout à l'intérieur. Des fois, ils font tout sortir à l'extérieur. Et ce n'est pas toujours facile non plus à gérer.
Ousmane, qui est au Mali, dans la région de Ségou, nous dit « Moi, j'ai connu deux supérieurs hiérarchiques qui souffraient de ce problème. Ils n'assumaient donc pas leurs responsabilités. Le bon fonctionnement du service en souffrait beaucoup. » Ce ne sont pas des bons managers, les hypersensibles?
Alors, moi, j'aurais... Alors là, par contre, je ne sais pas trop ce qu'il entendait par hypersensibilité. Il faudrait détailler un petit peu les comportements et les exemples, parce qu'au contraire, les hypersensibles sont des gens qui sont très bons dans les relations sociales. Voilà. S'ils arrivent à canaliser leur réceptivité, c'est-à-dire à se servir de ce qu'ils ressentent comme des informations et à l'utiliser dans la relation pour le meilleur épanouissement de chacun. Donc ça peut être des bons managers, mais à condition qu'ils puissent canaliser leurs propres émotions et se protéger.
On parlait de l'altruisme. Moïse, poste de Cap Haïtien en Haïti. Au travail, j'aide mes collègues à réaliser leurs tâches sans même penser à celles que j'ai à faire. Et aujourd'hui, je comprends que je dois changer mon comportement et ma sensibilité à leur égard avant que ça ne me coûte cher. Et puis un voisin aussi, Didier, témoigne sur WhatsApp.
Bonjour RFI, bonjour voisin. Et moi, je m'attache beaucoup, beaucoup sur des personnes que je rencontre, surtout à l'université. C'est comme si j'avais une carence d'affection. J'ai même envie de voler de l'argent à la maison pour être ensemble avec ces gens-là en train de prendre de la bière. En tout cas, je ne sais pas comment faire pour diminuer cela. Quand je ne suis pas ensemble avec ces personnes-là, je me sens comme s'il manquait quelque chose sur moi. Je ne sais pas comment faire pour diminuer cela. Merci.
Et puis il y a aussi le témoignage de Dafkalia, qui est à Port-au-Prince en Haïti. À l'école, je m'attache facilement à mes amis, c'est difficile de m'en dissocier. J'affiche un masque rigide pour faire comprendre que rien ne m'affecte. Je deviens fausse avec moi-même. Elles me blessent, ces amis, et je m'énerve pour cacher ma peine. Est-ce de l'hypersensibilité? Ce qui est fou, c'est le recul qu'ont tous ces auditeurs sur ce trait de personnalité, sur leurs difficultés. C'est incroyable, on a l'impression qu'ils sont leurs propres psychologues.
Alors oui, bah dans l'hypersensibilité, il y a une grande empathie envers l'autre, mais aussi une perception de ses propres émotions et de ses propres ressentis. Donc ce sont des gens
qui sont souvent extrême.
Ils sont souvent conscients de ce qu'ils ressentent, et ce qui est difficile, c'est la capacité à maîtriser, c'est-à-dire à contrôler ce qu'ils ressentent et à le mettre à distance. Alors là, c'est intéressant parce qu'on parlait des relations avec les autres, et c'est vrai que les hypersensibles sont souvent des personnes qui développent des relations profondes, d'attachement aussi important, et qui vont accorder une véritable valeur à la relation à l'autre et à ce qui peut être partagé dans la relation. Et du coup, ça peut les rendre effectivement un peu anxieux ou un peu vulnérables quand ils sont menacés par une séparation, par un changement brutal dans les relations d'attachement.
Est-ce qu'il y a tout de même un vrai problème de recherche d'amour ?
Alors, il y a une recherche d'amour, mais ça, la recherche d'amour, elle est chez chacun. Elle s'exprime peut-être de façon plus criante chez les hypersensibles, mais c'est avant tout une recherche humaine.
Nathalie Brochard, sur cette recherche de plaire à l'autre.
Eh bien, ça génère de l'hyperadaptation et puis potentiellement un déni de soi. Et donc, il y a cette tentative de refouler et de se faire du mal même pour pouvoir bien déverser un tant soit peu cet émotionnel d'une manière ou d'une autre.
Ça peut être très aigu chez les enfants, non ? Qui sont par définition plus sensibles au regard des autres quand on est enfant déjà.
Et puis c'est surtout que le regard ou la petite remarque, le jugement posé, pour tout à chacun blesse, mais pour eux c'est terrible. Ils peuvent vraiment être touché au-delà des mots et longtemps, et les marquer très très longtemps. Donc effectivement, il s'agit d'avoir une communication adaptée, avec bienveillance, mais pour se protéger, ils ont besoin d'avoir un tant soit peu un recul sur l'environnement, sur soi, sur l'intention de l'autre. Mais tout ça, ça s'apprend.
Allez, nous repartons au standard pour donner la parole à une voisine qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Un message posté sur WhatsApp de Fatou à Dakar.
Bonjour, c'est Mia Débutant. Je pense que les personnes hypersensibles sont des personnes qui ont besoin d'attention. Ils ont besoin d'être écoutés, d'être compris. Surtout pas les entourages. Moi, pour mon cas, je suis quelqu'un de très ouverte. Au niveau amitié, je crée facilement des liens avec des personnes. Mais mon problème est que j'ai du mal à exprimer mes sentiments, à parler de ce qui me fait mal. Enfin, je préfère garder tout pour moi et de gérer. C'était ma contribution. Bonne journée.
Merci à vous, Fatou. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Fatou ?
Alors, effectivement, on peut lui répondre que ça paraît parfois difficile d'exprimer ses propres émotions quand elles ont beaucoup d'intensité. Hein. Le fait de les mettre en mots n'est pas forcément évident. Et on peut vivre des formes de tempête intérieure très intenses. Elle exprime aussi le besoin d'être comprise. Et ça, c'est important à souligner parce qu'effectivement, l'hypersensibilité, c'est une différence. Elle n'est pas rare, puisqu'elle concerne 15 à 20% de la population. C'est quand même beaucoup. Mais souvent, ils se cachent, les hypersensibles. On ne les voit pas. Donc, on a l'impression, quand on est hypersensible, qu'on est un peu tout seul. Mais en fait, il y en a d'autres. Il y en a plus qu'on croit.
Vous faites bien de préciser, c'est une différence, ça n'est pas une maladie, ce n'est pas un problème en
non.
tant que tel.
C'est pas une pathologie, c'est un trait de la personnalité, c'est une différence. Mais du coup, quand on est 15 à 20% et que le reste de la population n'est pas hypersensible, ça peut être un peu compliqué. On a le sentiment d'être différent, de ne pas être vraiment compris dans ce qu'on ressent. Et c'est pour ça que c'est vraiment important aussi d'aller vers des gens qui nous ressemblent, qui sont sensibles aussi, pour reconnaître un petit peu des manières de fonctionner similaires, pour pouvoir échanger et se sentir justement mieux accueillis.
Nathalie Brochard, l'hypersensible, pleure plus souvent que les autres, par exemple ?
Les pleurs, c'est la conséquence de différentes situations. Les pleurs internes ou extériorisées, disons que cette question, je l'amènerais plutôt différemment. C'est qu'il y a effectivement une joie qui peut être manifeste ou intériorisée. Il peut y avoir des personnes plutôt introverties qu'extraverties dans les hypersensibles. Et effectivement, Nathalie le dit bien, beaucoup se cachent. Dans les hauts potentiels, l'hypersensibilité est reconnue. Et il est reconnu qu'il y a beaucoup de hauts potentiels qui se cachent. justement pour s'adapter à la société, à l'école, aux attentes, et camoufle toutes les émotions.
Ouais, en étant conscient de leurs différences, donc Nathalie Claubert.
Alors oui, je voudrais rebondir sur la question du haut potentiel. Alors effectivement, on rencontre des personnes qui sont à haut potentiel. Le haut potentiel, c'est quoi? C'est une différence beaucoup plus rare que l'hypersensibilité. C'est 2,3% de la population, quotient intellectuel supérieur ou égal à 130. Alors ça peut se combiner, c'est-à-dire hypersensibilité et haut potentiel intellectuel, mais il y a beaucoup plus de personnes hypersensibles que de personnes à haut potentiel, et il y a beaucoup de personnes à haut potentiel qui ne sont pas hypersensibles. C'est-à-dire que ça ne se recoupe pas nécessairement.
On va en reparler, bien sûr. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On parle des adultes et des enfants hypersensibles aujourd'hui chez 7 milliards de voisins en direct.
7 milliards de voisins et la planète sépare.
Et nous accueillons une voisine qui nous appelle de Yaoundé au Cameroun. Bonjour Gabriella.
Bonjour Emmanuel.
Gabriella, vous êtes... une femme hypersensible?
Oui, c'est vrai, je suis hypersensible.
Comment vous avez décrit très très bien ce que vous êtes, et ça correspond bien avec ce que décrivent les psychologues. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre personnalité et de votre façon aussi de percevoir le monde?
En fait, grosso modo, je suis une personne qui est attrayée... avec les odeurs, avec les sensations. Je suis une personne assez sensible à toute forme d'odeur. Je peux reconnaître n'importe qui à distance par son odeur. Mm-hmm. Et je peux savoir, vous, Emmanuel Bastille, que vous étiez là il y a une minute juste parce que j'ai mémorisé votre odeur. Et aussi, je suis sensible à certains types de bruits. Par exemple, des grincements de portes, des grincements de métaux contre métaux. Je n'apprécie pas ça du tout. Directement, ça me donne la sensation d'être dans un autre univers. Voilà. Et qu'est-ce que je peux ajouter? Je peux ajouter aussi cette hypersensibilité que je matérialise lorsque je suis plus à l'intérieur de moi, parce que, grosso modo, quand je veux me retirer du monde, souvent je me retrouve à l'intérieur de moi. Oui. Et là-bas, j'ai toujours l'impression de mieux me sentir, mieux me retrouver, mieux me percevoir, mieux percevoir les autres. Et j'écris beaucoup. J'écris énormément. Ça me permet de pouvoir avoir l'impression d'être comprise. Voilà.
Et votre monde intérieur, de quoi est-il peuplé, Gabriella?
Généralement, il est peuplé de couleurs et de choses que je voudrais vraiment voir. Surtout que je reproche beaucoup au monde aussi d'être de plus en plus inconsidéré, de plus en plus inconséquent. Donc, je me dis qu'au lieu de me morfondre ou bien d'avoir envie de me suicider ou bien d'entrer dans une dépression, mieux vaut que je me trouve dans un monde où je peux simplement retransformer les choses comme elles doivent être et puis j'accepte mieux les autres tels qu'ils sont. Parce qu'à l'intérieur de moi, déjà, j'ai fabriqué une forme de personnalité ou bien des formes de personnages qui me permettent de m'adapter aux autres personnes. Mm-hmm. Parfois, je me dis souvent que parfois je fais un peu semblant, mais après, je me dis que non. C'est juste une manière autre d'être, une manière autre de vivre pour pouvoir mieux fonctionner dans la société.
Et qu'est-ce que, en tout cas, vous avez très bien trouvé le moyen de vous adapter avec cette hypersensibilité dont vous avez totalement conscience, hein, visiblement. Vous êtes très lucide dans votre analyse. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Gabriella?
Je suis directeur général d'entreprise.
C'est compliqué pour vous de gérer des personnes ou pas tant que cela?
En vérité, ce n'est plus vraiment très compliqué parce que mon hypersensibilité, s'il faut le dire ainsi, m'a maintenant permis de comprendre que ceux qui sont en face de moi ont plus besoin d'être compris que moi. Donc, je peux utiliser ma capacité à savoir me mettre au service des autres pour mieux les comprendre dans ce qu'ils sont, qu'ils soient désagréables ou agréables, en fait. Donc, je peux mieux les prendre, et je peux mieux les gérer, mieux les manager, et ça se passe partout, même dans les négociations.
Votre témoignage est vraiment intéressant par rapport à tous ceux qui nous appellent. Hein. J'espère qu'il va susciter des réactions. Parce que moi, j'ai le sentiment, Nathalie Claubert, que finalement, Gabriella, elle n'a pas besoin d'aide. Elle a tout refabriqué, un monde à elle, pour s'adapter, pour que le monde s'adapte à sa personnalité aussi, d'une certaine manière, non?
Oui,
Elle a trouvé une façon à la fois d'être authentique avec soi-même, hein, c'est dans ce dont elle parle à travers l'écriture ou l'analyse de ses propres émotions, et en même temps de faire de cette hypersensibilité un outil dans le rapport à l'autre, c'est-à-dire de rester efficace dans le rapport à l'autre, et en même temps de rester en contact avec elle-même. Alors c'est une gymnastique, un équilibre qui n'est pas forcément évident, mais qui montre une habileté à se servir de ses émotions et à trouver sa place. Il y a plein de choses intéressantes dans le témoignage de Gabriella sur lequel j'aimerais revenir un petit peu, pour mieux comprendre un peu l'hypersensibilité. Notamment, elle peut se manifester à travers une hypersensibilité émotionnelle, hein, qu'on a vue, mais aussi sensorielle, c'est-à-dire cette plus grande capacité à percevoir les sons, les odeurs, les couleurs. Et ça, Gabriella nous en a bien parlé. Elle nous a beaucoup parlé aussi, et ça c'est intéressant, de ce besoin de se retrouver avec soi et de s'isoler, parce qu'on a besoin souvent de recharger les batteries, de se protéger de la fatigue quand on est hypersensible. Et il faut pouvoir se l'accorder pour mieux gérer cette sensibilité-là. Et aussi la question de la créativité, à quel point elle arrive à être en contact avec elle-même pour profiter de cette sensibilité, pour en faire quelque chose de créatif.
Gabriella, est-ce que vous savez, puisque vous êtes tellement lucide avec le monde, comment vous êtes perçue en tant que personne hypersensible dans votre culture ?
Dans notre culture ici, au Cameroun, on me perçoit comme une personne très dure, très distante, très froide.
Parce que ça c'est le masque, et ça c'est le masque que vous vous êtes fabriqué.
Oui, mais grosso modo aussi, je travaille comme ça, je suis quelqu'un d'assez distant et vraiment d'assez sincère. Je me suis dit que d'utiliser ma sincérité dans les larmes, mais bon, je l'utilise dans ce qui est réel, dans ce qui m'est utile en fait. Donc qu'est-ce que je fais ? Plutôt que de camoufler des choses que d'autres camoufleraient, parce qu'ils sont hypersensibles et qu'ils ne veulent pas blesser, moi, je prends la peine de blesser en me disant que je vais réparer, tout simplement. Et parce que je sais comment réparer aussi.
Ça veut dire que dans votre travail, personne ne soupçonne que vous êtes hypersensible dans ce que vous décrivez.
Non, personne. Juste que j'ai un seul collègue, en fait, qui a réussi à me lire. Et qui, un jour, il m'a dit, « Ah, je comprends comment vous êtes, madame. Je comprends comment vous êtes. » Et vraiment, je vois pourquoi vous êtes comme ça. Parce qu'il y avait des gens, au départ, lui et moi, on avait beaucoup de conflits. Et les gens ne comprenaient pas pourquoi on avait des conflits. Puis, subitement, les gens n'ont plus compris vraiment pourquoi on n'a plus de conflits. Alors d'autres ont des conflits avec moi, mais lui, il est en d'autres termes une forme de personne qui est là pour dire non, en fait, vous ne la connaissez pas très bien, elle n'est pas comme ça.
Peut-être que lui-même, ce collaborateur, est aussi hypersensible, comme vous,
voilà.
Qui sait, Gabriella.
Il l'est.
Merci de nous avoir appelé, Gabriella. En tout cas, vous avez fait ce qu'on pourrait appeler votre coming out d'hypersensible aujourd'hui, à la radio, en direct. Vous avez raconté des choses que vous racontez peu souvent, si je comprends bien.
Oui, ça c'est certain. Je ne le raconte pas du tout parce que je suis quelqu'un d'assez fermé, d'assez, on dirait cachotière, on va dire. Beaucoup de gens trouvent que je suis mystérieuse et bon, c'est pas vraiment le mot approprié.
Quel conseil vous...
Parce qu'il n'y a pas assez de gens.
Quel conseil vous donneriez aux autres hypersensibles qui ne savent pas comment apparaître au monde ?
Je peux simplement leur dire d'apprendre d'abord à se comprendre soi-même et surtout d'avoir de vraies valeurs qui sont au-dessus vraiment de toutes les formes de valeurs qu'on peut estimer. Les trop petites valeurs, comme juste être gentil, juste être bien, juste faire le bien, il faut aller au-dessus de ça.
Oui.
Il faut se dire qu'il faut être à l'aise avec soi-même et surtout avec la société dans soi-même.
Ouais, vous mettez la barre très haut hein, quand même, Gabriella. En tout cas, très très bonne journée à Yaoundé. Merci de nous avoir appelés en direct chez 7 milliards de voisins. Merci à vous.
Merci.
33 1 84 22 71 71, c'est le numéro de téléphone du Standard. On accueille Jean-René qui nous appelle en direct de Lubumbashi, dans le sud de la République démocratique du Congo. Bonjour Jean-René.
Bonjour Emmanuel, bonjour à l'invité.
Bonjour.
Bonjour.
Alors nos invités vous écoutent, hein, psychologue Jean-René, vous êtes à Lubumbashi, vous avez le sentiment ou la certitude d'être vous aussi hypersensible ?
Oui, c'est une question que je me pose et que je pose aussi à l'invité, le psychologue, parce que en fait, de nature, je suis quelqu'un qui aime toujours se rapprocher des autres, j'aime... créer des connaissances, créer des contacts avec des personnes. Et cette attitude, c'est ce que je voulais savoir. Est-ce que c'est de l'hypersensibilité ? Parce que par conséquent, cette attitude me crée aussi des désagréments avec les autres, les gens avec qui je vis au quotidien. C'est qu'ils prennent ça du mauvais côté ou ils voient ça d'un mauvais œil. dans les sens où j'ai pu commencer à parler avec beaucoup de gens au même moment et je ne parviens pas à satisfaire les autres. Non, la question que je pose, c'est celle de savoir, est-ce que le fait de vouloir toujours créer des contacts avec les autres, est-ce que c'est une caractéristique de l'hypersensibilité?
Oui, vous cherchez toujours à être en relation avec les autres. Hein. Nathalie Brochard, qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je trouve que c'est magnifique hein. Et que tout être humain devrait être ainsi, être en contact et en lien avec les autres. Mmh. Il n'y a que dans le rapport à l'autre que l'on peut mener une vie belle et enrichissante, dans la mesure où, bien effectivement, l'un et l'autre se respectent dans ses valeurs mmh. Et toujours dans la bienveillance.
Mais ça peut être perçu par le monde extérieur comme finalement une forme de dépendance hein, dans la relation aux autres.
Dépendance, s'il y a peur d'être seul, dépendance affective pour nourrir un besoin qui ne serait pas ajusté. Nous sommes tous correctement névrosés, nous allons dire. Il y a effectivement tout un processus d'attachement qui se nourrit en lien avec les parents dès le départ, ou recevant l'amour des parents, c'est ainsi que la personne peut se sentir digne d'être aimée, aimable. Et auquel cas, il n'y a plus du tout besoin d'aller chercher de l'amour ailleurs par la suite.
Merci à vous Jean-René de nous avoir appelé. Je redonne le numéro de téléphone du standard 33 1 84 22 71 71. Nous vous donnons la parole dans quelques instants.
7 milliards de voisins,
on existe ensemble.
Trop souvent, mes émotions prenaient le dessus. Je partais en colère furieuse, avec un mélange de rage, de haine, de tristesse et de désespoir. Tout était fois mille dans mon cœur et dans ma tête, et tout était trop difficile à garder au fond de moi.
Quand j'étais au collège, j'avais des problèmes d'attention qui me faisaient partir dans des rêveries. Mais c'est surtout l'ennui qui m'emmenait vers un échec scolaire. Je suis tombé par hasard sur des livres de philosophie et de maths dans lesquels j'ai reconnu ma façon de comprendre, notamment géométrique. Et c'est grâce à ça que je n'ai plus cherché à suivre les cours. J'ai compris que j'avais juste à saisir intuitivement le sens. Et ce qui était un handicap est devenu un avantage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'exploite mes rêveries comme un moyen par lequel les solutions tombent.
Est-ce qu'on peut dire, alors on vient d'entendre un extrait de votre documentaire en préparation, Nathalie Brochard, on oui. peut dire que certains hypersensibles ont cette intelligence émotionnelle, d'ailleurs qu'on a bien perçue dans le témoignage de Gabriella qui nous appelait, qui est chef d'entreprise de Yaoundé. Est-ce qu'il y a cette intelligence émotionnelle aussi qui donne des facilités intellectuelles dans certains cas?
Une intelligence émotionnelle, une intelligence intuitive. Ce qui pose énormément de soucis pour certains à l'école, puisque au tout départ, en primaire, ils peuvent recevoir la réponse à un problème posé, mais ils ne savent pas comment. Et donc, du coup, au collège, et au lycée, ils ont toutes les difficultés du monde de justifier. Justifier, argumenter, développer. De la même manière qu'ils ont une pensée en arborescence, vous leur posez une question, et bien 20 réponses surgissent de manière fulgurante dans leur tête, qui sous-tend 20 autres réponses également, une confusion et on a le « je ne sais pas ». Et donc du coup, ils ont tout à apprendre pour passer vers une dynamique plutôt séquentielle, linéaire, et à apprendre à faire un développement, intro, parties et conclusions. Parce qu'ils fonctionnent avec un cerveau intuitif, créatif en premier lieu.
Nathalie Clobert, vous êtes d'accord avec ça ?
Alors, il y a des choses qui sont très intéressantes, d'autres choses que j'aimerais juste un petit peu préciser peut-être ou nuancer, en tout cas de mon point de vue à moi, parce que chacun a sa propre clinique et son expérience. Alors effectivement, il y a plusieurs façons d'aborder un problème et de trouver des solutions, et on peut les trouver de manière analytique en ayant bien conscience du chemin qui nous mène vers la solution, comme on peut être porté par des mécanismes plus intuitifs, des mécanismes d'association dont on n'arrive pas forcément à rendre compte. Bon, ce n'est pas forcément propre aux personnes hypersensibles, c'est une façon différente d'appréhender les choses, mais effectivement quand on est on a une autre forme, quand on utilise une autre forme de résolution de problèmes ou de forme d'intelligence, ça peut poser un souci hein, dans un cursus classique. Après, ce qui est vrai aussi, c'est que souvent, le cursus scolaire n'offre pas beaucoup de choses hein, pour les enfants qui sont plus sur un versant créatif, sur un versant sensible, parce qu'on les développe moins, parce qu'on les écoute moins, parce qu'on leur offre moins de choses à manger, souvent, sauf au tout début de la scolarité où il y a plus d'éléments créatifs en maternelle. Donc c'est des enfants, quand ils sont vraiment plutôt portés là-dessus et moins sur les contenus scolaires, qui peuvent être en difficulté ou avoir besoin d'être nourris autrement.
Est-ce qu'aujourd'hui, Nathalie Branchard, en quelques mots, hein, le système scolaire n'est pas adapté à ces enfants hypersensibles pour les nourrir, pour leur permettre de s'épanouir, d'être bien dans cette hypersensibilité?
Ça dépend lesquels. Parce que effectivement, ils ont développé une pédagogie adaptée, mais il s'agit d'avoir un QI de 130. Ils mettent en œuvre une gestion de l'hypersensibilité qui est vraiment caractérisée avec des recommandations comme manier l'humour avec prudence, favoriser une bonne estime de soi parce qu'il peut y avoir un décalage.
Ce sont des enfants hypersensibles et surdoués ou intellectuellement précoces. Or, tous les hypersensibles ne sont pas dans cette situation-là.
Voilà.
Hein, on est bien d'accord.
Alors justement, à l'intérieur de mon documentaire, d'ailleurs, j'interview des scientifiques et ils ont effectivement vu que l'hypersensibilité est en lien avec un réseau cérébral qu'on appelle le réseau de science et qu'il n'est pas du tout obligatoire d'avoir un QI de 130 pour être dans cette...
Et on peut être hypersensible avec une très bonne acuité sur le monde, un très bon sens de l'analyse très fine des relations sociales, ce que vous disiez Nathalie Clobert, sans être intellectuellement précoce, sans avoir un QI particulièrement supérieur à la moyenne.
Hein, tout à fait.
Ce qui n'en fait pas quelqu'un de bête non plus. Je voudrais qu'on donne la parole à Lilia Rechetniak qui fait du recrutement de profils atypiques. Bonjour Madame Rechetniak.
Oui, bonjour.
Vous avez créé ce site IPIN, donc vous vous occupez de recruter des profils atypiques pour des entreprises. Est-ce qu'il y a parmi ces profils atypiques des personnes hypersensibles et comment vous les percevez, vous?
Oui, tout à fait. Il y a effectivement des personnes hypersensibles. Comment je les perçois, en fait...
Et comment vous parvenez à les insérer dans le monde du travail aussi?
Ah, ça, c'est une autre question. la façon dont je les perçois, ça rejoint vraiment ce qui a été dit tout au long de l'émission, probablement avec une précision plus pour ma part, c'est qu'il y a des personnes, en fait, qui ne sont pas aujourd'hui, qui n'ont pas aujourd'hui la façon de pensée de la majorité, donc qui sortent déjà du lot, et qui pour autant n'ont pas, entre guillemets, le droit, c'est une notion un peu bizarre, mais qui n'ont pas le droit d'avoir une étiquette. Il n'y a pas de HPI, donc au potentiel, il n'y a pas d'autisme, il n'y a pas d'autre chose. Et pourtant, bon, c'est des personnes qui naviguent un petit peu entre plusieurs eaux.
Dans quel métier les hypersensibles excellent, selon vous, Lilia Rechetniak?
Je pense sincèrement dans n'importe quel métier. Ça dépend vraiment de l'affinité de chacun, de la personnalité. Je n'ai pas du tout, je ne suis pas une grande adepte.
Parce qu'il y a beaucoup d'hypersensibles chez les artistes, bien évidemment.
Oui, après, est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes chez les hypersensibles? Ça, c'est autre chose.
Je ne sais plus qui citait l'écrivain Gustave Flaubert qui disait « Je suis doué d'une sensibilité absurde, ce qui érafle les autres me déchire oui. ». C'est quand même une très belle phrase. Beaucoup d'auditeurs nous postent des messages, nous disent « Mais ça y est, je découvre que je suis hypersensible ». Amara nous appelle de Paris au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Amara.
Bonjour madame.
Vous êtes en direct chez nous, on vous écoute Amara.
Oui. Comme je vous avais dit tout à l'heure, moi je viens de découvrir que je suis hypersensible. En fait, je ne savais pas. Au début, je pensais que tout le monde est comme moi. Parce que moi, j'ai pu galérer et j'ai prêté l'argent à mes amis, mes cousins. Mais moi, quand je vois et qu'ils ont de l'argent, ils ne veulent même pas me prêter. Et même si des fois j'ai des relations avec les gens, je sais que cette relation est mauvaise pour moi. je ne peux pas arrêter. Même si j'ai dit un jour, bon, vous savez quoi, on arrête après, au bout des minutes, je me culpabilise, je l'appelle. Mais même quand je l'appelle, il ne répond pas. En fait, je me culpabilise toujours, même si quelqu'un me fait mal, moi je m'excuse. Même s'il ne veut pas m'excuser, je me culpabilise en fait.
Merci, merci Amara, on va laisser la parole à nos invités parce qu'on arrive bientôt au terme de cette discussion. Comment s'affirmer, ne pas... Beaucoup d'auditeurs quand même disent qu'ils ont le sentiment de se laisser marcher sur les pieds, comme on dit familièrement, finalement, Nathalie Clobert.
Alors oui, il y a plusieurs témoignages qui vont en ce sens, c'est-à-dire d'avoir le sentiment qu'on fait passer toujours les désirs des autres avant les siens, les besoins des autres avant les siens, et qu'on est très sensible à ce que l'autre demande ou à ce dont l'autre a besoin, qu'on a envie de faire plaisir, de mettre l'autre à l'aise, et que cette plus grande faculté à écouter l'autre, parfois, tend des pièges où on se retrouve à ne plus s'écouter soi-même et à se mettre dans des situations un peu difficiles où l'autre peut un peu profiter de nous. Donc c'est important de se servir aussi de cette plus grande faculté à percevoir l'autre pour voir les signes de réciprocité et de respect chez l'autre, qui sont des conditions essentielles à l'établissement d'une relation.
Et pouvoir mieux se protéger. Parce Exactement. Que justement, Lilia Rechetnia, qu'est-ce que vous avez le sentiment en tant que recruteuse que les hypersensibles risquent davantage d'être des victimes de personnes malveillantes au travail? Je pense notamment aux pervers narcissiques, par exemple, dans l'entreprise.
Alors, est-ce qu'elles risquent? Je ne sais pas. En tout cas, factuellement, aujourd'hui, c'est clair qu'elles le sont, puisque je constate effectivement que tout ce qui est risques psychosociaux, burn-out, stress au travail, dans ces choses-là, il y a beaucoup de personnes hypersensibles. Maintenant, une personne hypersensible qui se comprend, qui a appris à se respecter et qui s'assume, non, au contraire. Elle va avoir... On les sent, en fait. Les personnes qui vont abuser de nous, on le sent, mais on ne s'écoute pas.
Tout à fait.
C'est ça, parce qu'il y a cette acuité qui est bien présente, qui est supérieure aux autres, mais on n'écoute pas cette lucidité. Merci d'avoir été en ligne avec nous, Lilia Rechetniak. Pour conclure, Nathalie Clobert, qu'est-ce qu'il faut retenir de tous les hypersensibles qui vous ont écouté avec attention? Quelle ligne de conduite retenir pour davantage se servir de ce talent-là dans la vie pour être mieux dans sa peau?
Alors, ce qui est très important, c'est d'arriver à se défaire de la culpabilité, souvent qu'on a par rapport à nos propres émotions, à nos propres sensations. Cette culpabilité qui, du coup, va faire peser le doute sur ce qu'on ressent et sur la manière dont on peut l'utiliser, d'être plus à l'écoute de soi. Parce que les émotions, c'est quand même un super pouvoir. C'est-à-dire, c'est vraiment des signaux, c'est des informations qui nous sont très, très utiles et qui nous servent tous les jours dans nos rapports avec les autres, mais aussi dans notre façon de répondre à nos besoins. Alors, bien sûr, il va y avoir une façon de nuancer les choses et de les adapter dans la communication à l'autre, mais c'est très important de s'en servir comme une ressource.
Et y compris si on est un homme, on a reçu beaucoup de témoignages de femmes.
Parce qu'il y a des hommes hypersensibles.
Bien sûr. Merci en tout cas à vous, Nathalie Brochard, d'avoir été en ligne avec nous. Merci à Nathalie Clobert, vous avez publié « Dompter votre hypersensibilité » chez Le Duc, et merci à Lilia Rechetniak. Dans quelques instants, ce sera la chronique de Marie-Rose Moreau, « Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs ».
Je connais tous les raccourcis, tous les souterrains. Marche près de moi, obéis, ne lâche pas ma main. Je t'éviterai les pièges. Suis-moi, deviens tout terrain.
Laurent, c'est Pauline Croze chez 7 milliards de voisins sur RFI. Comme chaque vendredi, la chronique de Marie-Rose Moreau, parents, enfants d'ici et d'ailleurs. En ce moment, c'est une série sur le sommeil des enfants que vous pouvez d'ailleurs retrouver en rafale. Vous pouvez écouter toutes les chroniques en podcast. Et aujourd'hui, elle répond à la question qui fait tant débat. Les enfants doivent-ils dormir dans leur propre chambre ou peuvent-ils dormir dans la chambre des parents? Et jusqu'à quel âge?
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
Et nous retrouvons la chronique de Marie-Rose Moreau, pédopsychiatre qui dirige la revue transculturelle L'Autre. Bonjour Marie-Rose.
Bonjour Marielle.
Troisième chronique sur le sommeil des enfants. Les enfants doivent-ils dormir dans leur propre chambre ou bien peuvent-ils dormir dans la chambre des parents ou même dans le lit des parents, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que de partager la chambre. Et jusqu'à quand? C'est une question largement débattue sur les forums de parents à bout de patience qui n'arrivent pas à faire dormir leur enfant, Marie-Rose.
La question c'est... qu'est-ce qui aide les enfants à se rassurer? Qu'est-ce qui aide les enfants à être tranquilles et à grandir? Faut-il pour cela les garder tout près de soi ou au contraire les mettre dans des endroits séparés et spécifiques? Alors, par exemple, en Afrique de l'Ouest ou au Japon, on pense que ce qui rassure d'abord le corps des enfants, c'est le corps de la mère, ce qui les protège. Et plus il restera proche de ce corps, plus il va maturer et ensuite il va avoir les compétences pour être autonome et capable de se suffire à lui-même, en particulier pour pouvoir dormir loin de sa mère. Et donc, dans ce cas, pas de chambre individuelle pour les petits et quand ils sont considérés comme assez forts, ils passent dans la chambre des enfants ou dans une chambre individuelle. Mais cela peut être assez tard, selon nos critères. Par exemple, au Japon, pour prendre un autre endroit, c'est vers 6 à 8 ans. Je me souviens d'une maman japonaise qui venait d'arriver en France et donc elle s'appelle Kia, elle est mariée avec un monsieur français et ils ont une petite fille qui naît en France. Et à l'âge de 2 ans, ils sont obligés de venir me consulter parce qu'il y a un conflit extrêmement fort autour de où est-ce que cette petite doit dormir. Donc là, Kia, qui est japonaise et qui est en plus loin de sa mère et loin du Japon, elle dit, moi, le moins que je puisse faire pour ma fille, c'est de la laisser avec moi.
Elle dort dans la chambre ou dans le lit?
Dans le lit du couple. Et... Elle a dormi jusqu'à 8 ans.
Dans le lit de ses parents, donc.
Dans le lit de ses parents. La vie s'organise comme ça. C'est-à-dire, c'est une adéquation, là aussi. On s'organise, les adultes font leur vie, les enfants aussi. Mais au moment de dormir, l'enfant dort avec sa mère.
Le papa n'est pas content, parce qu'il est français. Il a épousé une japonaise. Est-ce que c'est mauvais pour les enfants que l'enfant soit dans la chambre des parents, dans le lit des parents, dans ce contexte-là?
Non, c'est pas mauvais du tout, puisque c'est la meilleure réponse possible à qu'est-ce qui rassure l'enfant. Qu'est-ce qui rassure l'enfant pour Kia, c'est qu'il reste avec moi le plus longtemps possible. Pour son mari français, c'est qu'il dorme dans la chambre à côté. Et c'est ça la vraie question, c'est-à-dire est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait faire mal aux enfants de dormir ou de ne pas dormir? Et en fait, la réponse, objectivement, et maintenant les études le montrent facilement, c'est que vraiment c'est une question de contexte et d'habitude, et que si c'est comme ça qu'on fait dans ce lieu-là et dans cette famille-là, de laisser l'enfant dans son lit, alors ça ne fait pas de mal aux enfants.
En l'occurrence, dans une famille biculturelle, on choisit quoi?
Alors justement, dans une famille biculturelle, on va négocier entre les besoins du bébé, selon la maman, et les besoins du mari selon lui et qui a une autre...
Les besoins de l'enfant selon le mari, c'est ça?
Oui, mais aussi les besoins du mari.
Oui, d'accord.
Ça se joue au niveau des deux générations. Et parce que le sommeil des enfants, il faut que les adultes y soient tranquilles également. Et donc, du coup, dans cette situation, on a négocié avec... une fois que tout le monde a compris comment ça se situait, c'est Kia qui a trouvé la solution, la maman. La semaine, l'enfant dort avec elle. Et le week-end, l'enfant apprend à dormir devenir comme les petits Français. Et vous savez aussi qu'en France, on est en train de redécouvrir les joies, entre guillemets, du co-sleeping. On se demande si ça peut, dans certaines
nouvelles familles... Le co-sleeping, donc, quand l'enfant dort avec ses parents.
Voilà.
Donc, du coup, tous les débats qui s'en suivent sur les réseaux sociaux.
Tous les débats qui s'en suivent. Mais on redécouvre quelque chose qui existe dans d'autres endroits. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est la nécessité que l'enfant soit en sécurité et que les parents puissent aussi vivre leur vie, avec une séparation d'ailleurs, même lorsque l'enfant dort dans le lit de sa mère ou de son père, la vie des adultes et la vie des enfants est séparée.
Mais ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, le co-sleeping, faire dormir son enfant dans son lit en Europe, alors que ça n'a pas été le cas, qu'il n'y a pas de lien culturel avec cette tradition-là, ça n'a pas lieu d'être, finalement.
Je serai un petit peu plus nuancée. C'est-à-dire qu'effectivement, les deux sont possibles. Et ça, c'est une fonction de contexte, de moment et de représentation qu'ont les parents. Vous savez, en puériculture, on réinvente des manières de faire. Si à certains moments, justement aujourd'hui, dans une nouvelle interaction avec les bébés, on se dit, pendant un mois, il va rester avec moi, il n'y a aucun problème non plus. Mais il faut quand même que ça. En général, on va se
réunir avec d'autres. Voilà. Et un terrain d'entente dans la famille.
Voilà.
Je me souviens quand même du témoignage d'un jeune Allemand qui avait un frère cadet et qui disait « Je me suis toujours demandé comment j'avais pu avoir un frère dans la mesure où j'ai toujours dormi dans le lit de mes parents. » Et quand on connaît la natalité allemande, on peut se poser la question.
Et c'est ça le mystère.
Merci beaucoup Marie-Rose Moreau. On poursuit cette série de chroniques, toujours donc sous l'appellation « Parents, enfants d'ici et d'ailleurs » est disponible bien sûr en podcast. Vous pouvez réécouter toute la série consacrée pendant quelques semaines au sommeil. Prochain épisode, 4e épisode, comment apaiser les cauchemars des enfants. Merci Marie-Rose Moreau.
Et voilà.
Alors on dit quoi?
Une apparition dans le studio des 7 milliards de voisins, c'est la voisine Diara Ndiaye. Bonjour Diara.
Bonjour Emmanuel.
Avec une tunique absolument magnifique.
Merci.
Alors on dit quoi ce samedi Diara sur RFI?
Alors demain on va parler de la musique, des musiciens et précisément des musiciens engagés en faveur de nobles causes, raison pour laquelle nous recevons Youssou N'Dour pour participer à une émission dédiée à la jeunesse africaine. Il est justement impliqué auprès des jeunes, de leurs préoccupations et bien sûr de leur avenir.
Avec des jeunes qui prennent des bateaux, qui prennent des risques pour penser qu'ici c'est l'Eldorado, ça ne l'est pas, en tout cas au moins ça ne l'est plus. Ça c'est un combat qui me tient à cœur, je pense qu'il faut conscientiser les jeunes, il faut les occuper, il faut leur proposer quelque chose. Il n'y a pas meilleur ambassadeur que les chanteurs, les musiciens, les rappeurs pour éveiller les consciences.
Voilà, s'engager pour la jeunesse, c'est devenu incontournable pour les artistes aujourd'hui.
Absolument Emmanuel, et on va également recevoir d'autres artistes engagés, des jeunes comme Aïssat, qui est une jeune artiste, auteure, compositrice et interprète mauritanienne engagée en faveur des droits des femmes.
Voilà, on en saura plus samedi, 11h10, temps universel. Tout est noté pour le rendez-vous. Merci Diara.
Merci Emmanuel.
Et la semaine prochaine, 7 milliards de voisins, nous vous proposons pendant quelques jours de réécouter une sélection de nos émissions avec comme toujours vos appels, vos réactions. Vous le savez, c'est vous qui faites l'émission, qui êtes le sel de l'émission. Lundi, pourquoi sommes-nous accros aux séries télévisées, bien sûr. Merci à toute l'équipe, Sigrid Azeroual, Delphine de Dianous, Romain Dubrac qui prépare chaque jour cette émission. Et vous pouvez aussi nous retrouver en podcast ou sur l'appli RFI Pure Radio à la rubrique émission ou nous retrouver sur les réseaux sociaux. Merci à vous tous de votre fidélité.